Pour commencer cette conférence, je voudrais vous inviter d'abord à réfléchir un instant au terme de globalisation et à réfléchir instantanément à ce que suggère ce thème de globalisation. Et lorsqu'on, je dirais en quelques instants, on essaye de penser à la globalisation, il y a peut-être deux réflexions qui peuvent arriver tout de suite à l'esprit. Par exemple, il y a le fait que lorsqu'un événement se déroule à l'autre bout du monde, dans l'état actuel du monde, on le sait instantanément, ou pratiquement instantanément. Et comme le disait, de ce point de vue, c'était une pensée à la fois sur la charité chrétienne, comme le disait l'abbé Pierre, nous sommes obligés aujourd'hui, nous sommes condamnés à tout savoir de ce qui se passe dans le monde, et les pires catastrophes, on les connaît tout de suite. Donc ces catastrophes pèsent beaucoup sur notre vie, même lorsqu'elles se déroulent à 20 000 km de nous. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément auquel on peut penser, c'est par exemple l'idée que si les hommes circulent beaucoup actuellement sur la Terre, et vous avez un potentiel de circulation extraordinaire, les virus aussi. Et donc, la globalisation, c'est aussi le fait que des virus venus de l'autre bout de la Terre puissent arriver très rapidement chez nous et apporter des maladies nouvelles qui étaient inconnues jusque-là. Il est vrai qu'il y a un siècle, par exemple, il y a un siècle, quelqu'un qui partait de Bombay en Inde et qui était malade, eh bien, partait en bateau pour rejoindre Londres, par exemple. Et s'il était porteur d'un virus en partant de Bombay, deux mois après, en arrivant à Londres, sa maladie était déclarée et évidemment, on mettait cette personne en quarantaine, il n'entrait pas dans le Royaume-Uni. D'accord ? Aujourd'hui, vous prenez l'avion de Bombay, en à peu près 7-8 heures, vous arrivez à Londres ou à Paris, et évidemment, si vous êtes porteur d'un virus en partant de Bombay, eh bien, il sera toujours présent dans votre corps en arrivant à Paris ou à Londres, mais par contre, la maladie risque de ne pas être déclenchée, donc vous ne serez pas mis en quarantaine, vous ne serez pas surveillé, vous n'irez pas voir de médecin. Donc vous voyez, deux éléments comme ça qui évoquent bien ce qu'est la globalisation aujourd'hui, c'est-à-dire ce fonctionnement tout à fait nouveau d'un monde où les communications sont extraordinairement rapides, les flux de personnes, de capitaux, de marchandises sont extraordinairement rapides, et donc où la technologie nous permet d'avoir une connaissance instantanée d'énormément de faits qui se déroulent sur la Terre aujourd'hui. Alors, j'ai intitulé ma conférence « La globalisation ou la création du monde ». Alors, ça peut vous paraître tout à fait curieux d'utiliser le terme de création du monde avec un M majuscule. C'est en quelque sorte, vous allez voir, dans cette perspective de création d'un monde nouveau, que je vais développer les thèmes dans cette conférence. Alors, bien sûr, en introduction, je vais revenir un instant sur le mot globalisation. Parce que s'il y a des collègues économistes ici, ils sauront bien de quoi je parle. Ce sont des économistes qui ont lancé l'idée de, au départ, des économistes américains qui ont lancé l'idée de globalization avec un Z et qui signifiait, qui tendait à faire croire que nous entrions depuis une trentaine d'années, nous allons entrer dans un monde qui était un monde global, une société globale ou un village global où finalement les entreprises de ce monde global pourraient vendre les mêmes produits à tous les consommateurs du monde, exactement les mêmes produits standardisés, formatés, sans que les particularités, les régions, etc. puissent jouer un rôle dans cette vente. Donc une société qui finalement était débarrassée de toute rugosité, de toute interférence culturelle, en quelque sorte, pour reprendre une métaphore, un monde complètement lisse. Vous savez, il y a eu au début du 19e siècle, il y avait encore des scientifiques qui pensaient qu'un jour, compte tenu de l'érosion, eh bien la Terre serait une boule de billards, eh bien, les économistes américains pensaient exactement la même chose du point de vue économique. Ils s'imaginaient que des entreprises mondiales pourraient comme ça vendre des produits uniques à tous les habitants du monde. Et donc, ils ont lancé cette idée de société globale ou de village global. Cette idée de société globale ou village global a été ensuite reprise par d'autres économistes développés dans l'idée que le monde pourrait par conséquent devenir un monde sans frontières, qu'aucune frontière ne pourrait plus jouer un rôle dans les relations humaines et par conséquent, particulièrement en ce qui concerne les entreprises, eh bien, il y aurait matière là à se jouer de la place des États, de la surveillance des frontières, des contrôles territoriaux pour développer des entreprises qui devenaient à ce moment-là, transnationales plutôt que multinationales, et qui auraient pu utiliser par conséquent ce monde sans contraintes qui allait se développer. Le monde sans frontières des économistes. Alors, cette situation, je veux dire, ces définitions successives ont amené progressivement, et on est né plutôt dans ce cas-là actuellement, à l'idée que, la mondialisation ou la globalisation, c'est un système qui fait en sorte que les États perdent de plus en plus de leur pouvoir par rapport aux entreprises transnationales, aux entreprises qui aujourd'hui jouent de l'ensemble du monde pour faire valoir leur puissance en termes de vente de produits. Et donc, actuellement, l'idée de globalisation, de mondialisation, c'est une idée qui est étroitement associée à une forme de contestation de cette puissance des entreprises face à la ce qu'on pense être une perte de puissance des États. Alors, nous en sommes là, mais je dirais que ce qui m'intéresse, moi, en tant que géographe, au fond, en ce qui concerne la mondialisation, c'est pas seulement la mondialisation économique. Je dirais même, je laisse cette mondialisation économique aux spécialistes, et je vais entrer dans la mondialisation ou la globalisation d'un autre point de vue. Du point de vue des géographes, ou de quelques points de vue de géographes, à partir de, je dirais, deux idées que vous voyez sur la page, là. D'une part, l'idée de globalité. Alors ça, cette idée de globalité m'intéresse parce que vous pourrez tous la vivre. C'est à la fois l'idée que maintenant nous sommes sur une terre, un monde qui est bouclé. Il est fini. On peut en faire le tour très rapidement. Tout le monde a potentiellement le moyen d'en faire le tour par la pensée comme réellement. Donc il est bouclé ce monde. Il apparaît même, bon ça peut être une source d'inquiétude, il apparaît même petit. Ce monde bouclé. Bon, donc ça c'est un premier point intéressant. Et puis deuxièmement, c'est dans la globalité, telle qu'on peut l'entendre chez les géographes, il y a l'idée de totalité aussi. C'est-à-dire que le bouclage et la globalité s'accompagnent d'influence dans toutes les facettes de la société. À tous les niveaux de la société, nous sommes confrontés, nous sommes influencés par cette mondialisation. Donc, plutôt que mondialisation ou globalisation, vous voyez, l'idée de globalité est une idée qui me semble extrêmement intéressante à retenir de ce point de vue-là. Deuxième idée, particulièrement chère aux géographes, mais aussi étroitement associée à l'histoire, c'est l'idée que, contrairement aux économistes, nous pensons que tous les phénomènes qui concernent la mondialisation sont des phénomènes qui ont une relation très forte à l'espace, au sens de l'espace organisé par les hommes sur la Terre. Donc, il y a une spatialité des phénomènes, et oublier la spatialité des phénomènes, c'est oublier un aspect, à mon avis, fondamental dans la mondialisation d'aujourd'hui. S'il y a spatialité, il y a aussi un autre aspect extrêmement important à retenir, c'est la temporalité. C'est-à-dire, vous allez voir, que on ne peut pas considérer que la mondialisation est un phénomène associé, comme on l'a entendu parfois, associé à une période qui s'est écoulée depuis une trentaine d'années, en disant, bon voilà, la mondialisation c'est un phénomène très récent. Je vais vous montrer au contraire que la mondialisation fonctionne sur des rythmes, sur un usage du temps, donc la temporalité, qui n'est pas du tout celle qu'on a l'habitude d'entendre. Et par conséquent, spatialité et temporalité nous amène, nous géographes et aussi historiens, à entrer dans la mondialisation sous un angle complètement différent de ce que vous avez peut-être l'habitude d'entendre. Alors ce que je vous propose, donc dans cette conférence, c'est de vous embarquer dans une aventure qui sera fondée sur trois approches, qui sont autant de facettes de la géographie. La géographie est multiple dans ses approches. Je vous en propose trois approches de la géographie, trois parties, trois approches. D'une part, une approche géohistorique. On peut faire de la géographie dans l'histoire, c'est-à-dire en fait faire de la géographie dans l'Antiquité, faire de la géographie au Moyen-Âge, faire de la géographie à l'époque moderne, faire de la géographie évidemment à l'époque contemporaine. Ça, c'est la géohistoire. Deuxième approche, une approche de géographie politique, qu'on fait peut-être moins dans les lycées, une approche qui concerne, je dirais, les relations entre un pouvoir, quel que soit le pouvoir, et des territoires ou des espaces, approche géographie politique, et enfin, une approche de géographie culturelle qui met en relation les cultures, les civilisations. Alors, je vous invite, petite parenthèse, je vous invite d'ores et déjà, pour que ce soit facile de travailler ensemble, de passer ce temps ensemble, je vous invite à poser des questions quand vous avez envie. On ne va pas attendre forcément le débat, donc si une question vous vient à l'esprit par rapport à ce que je viens de dire, si vous voulez une précision par rapport à ce que je viens de dire, eh bien je vous invite à prendre la parole, il n'y a aucun problème, ça sera comme en cours à l'université. Alors, donc, ce qui m'amène dans un premier point, et c'est l'approche géohistorique, à utiliser le terme, alors peut-être que ce terme-là va peut-être choquant à votre esprit, c'est l'invention du monde. Effectivement, dans la perspective qui est la mienne, on peut considérer qu'il y a eu une invention du monde par les Européens. Comprenons-nous bien, le monde est entendu non pas au sens de uniquement de la planète, qui est la Terre, mais le monde dans le sens des hommes qui sont en relation les uns avec les autres, qui se connaissent et qui se reconnaissent. C'est ça le monde, tel qu'il a été inventé. Et donc cette invention a commencé, elle a commencé très tôt, donc c'est le premier thème que j'aborde. Avant le monde actuel, il y a eu déjà production de mondes au pluriel, une multitude de mondes très différents. Et là je vous renvoie, voyez, à des périodes très anciennes, puisqu'on peut commencer dès l'Antiquité à voir apparaître les premiers mondes vus par les hommes de l'époque. Et par exemple, nous savons que des savants de l'Antiquité, qui étaient géographes, philosophes, historiens, mathématiciens, Ératosthène, Ptolémée et tant d'autres, eh bien, ces philosophes, ces savants, ces géographes, ces historiens, avaient non pas une connaissance générale du monde, puisqu'ils vivaient dans un monde qui était la Méditerranée, ils connaissaient guère plus que l'environnement de la Méditerranée, peut-être avec Alexandre le Grand un peu plus en direction de l'Asie, mais globalement leur monde c'était le monde de la Méditerranée, oui, mais ils pensaient le monde, ils avaient une idée du monde qui les plaçait dans un monde géométrique, dont la forme circulaire était tout à fait remarquable, le cercle étant une forme philosophiquement et je dirais humainement extrêmement, comment dire, équilibrée et sécurisante. Se placer dans un cercle, c'est toujours très sécurisant. Bien, les premiers savants grecs se voyaient comme ça. Ils se voyaient dans un monde circulaire, entouré d'eau, entouré d'une masse océanique peu connue. Mais l'idée d'être dans un cercle, au centre de ce cercle, et l'idée d'être autour de la Méditerranée, c'était une idée pour eux extrêmement importante. Eh bien, c'était un premier monde. Lequel monde n'était pas le même que ceux des Chinois, que le monde des Chinois à la même époque ou le monde des Polynésiens à la même époque. D'autres peuples avaient d'autres visions du monde, vivaient dans d'autres mondes que celui des Grecs dans l'Antiquité. Au Moyen-Âge, eh bien, il y a un premier modèle du monde qui est encore plus qui est plus influent dans la société de l'époque. C'est la carte, ce qu'on appelle la carte en théo, dont je vais vous montrer un exemplaire. Vous avez sans doute déjà vu ce modèle graphique qui est la carte en théo. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge s'impose à l'esprit des savants et des penseurs de l'époque que finalement, et dans l'héritage de la pensée grecque antique, Eh bien, le monde est divisé en trois. Il y a trois continents au Moyen-Âge, dans la pensée des savants de l'époque. Il y a l'Asie, il y a l'Europe et il y a l'Afrique. Les trois continents étant séparés par la Méditerranée, par le Nil et par un fleuve d'Europe orientale à la limite avec la Russie d'aujourd'hui qui s'appelle le Don. Et donc, dans la pensée du Moyen-Âge, c'est ce modèle de T en O, de carte en TO, qui domine, le T étant bien sûr ici, vous voyez, les lignes de partage entre les trois continents. Et puis, on reste encore dans l'héritage des Grecs que j'évoquais tout à l'heure, dans un monde circulaire, qu'on imagine plat, hein, qu'on imagine très plat, et qui est bordé d'un ensemble océanique représenté par ces teintes bleutées tout autour. Bon. Donc il y a, dès le Moyen-Âge, avec un héritage grec extrêmement important, ces visions du monde et ces mondes représentés là. Trois continents, donc, à l'époque. Alors, une première étape de la mondialisation, de ce point de vue, va intervenir à la fin du Moyen-Âge, c'est un partage du monde, a priori, associé étroitement à... Eh bien, à des conquêtes, à la première conquête du monde, mais dans une perspective strictement européenne, la conquête des Espagnols et des Portugais, Espagnols et Portugais qui vont se partager le monde, aussitôt les grandes découvertes, ce que nous avons appelé les grandes découvertes, réalisées. Alors, ça nous donne un monde comme celui-là. Alors, vous voyez, c'est une carte sans doute qui ferait peut-être frémir un puriste géographe en disant mais comment est-ce qu'on peut faire une carte manuelle avec des crayons de couleur, un dessin relativement limité et pas très affirmé, hein, sur une carte comme celle-là. Ça ferait peut-être frémir beaucoup de correcteurs du baccalauréat même si la carte n'est pas aussi précise et parfaite. Mais c'est tout à fait intéressant. Ce qui compte là, c'est la pensée de celui qui a cartographié ce monde comme cela. Il s'agit en fait d'un cartographe actuel d'un journal qui s'appelle Le Monde Diplomatique. Et il a représenté la première mondialisation, c'est-à-dire la première étape d'un partage du monde, de création du monde, associé étroitement à un partage. Eh bien ici, vous voyez deux couleurs. D'une part, en violet, le monde espagnol, comment les Espagnols se sont partagés, se sont dotés d'un ensemble mondial extrêmement important, et d'autre part, les Portugais. Et vous le savez sans doute, si vous avez des souvenirs d'un cours d'histoire du Moyen-Âge, ou de l'époque moderne, la fin du Moyen-Âge en tout cas, eh bien c'est par le traité de Tordesillas que Espagnols et Portugais se sont partagés le monde sans le connaître véritablement. Hein, tout en le découvrant, ils se sont partagés, et voyez, ici vous avez le méridien côté Atlantique qui partageait le monde portugais et espagnol, et puis de l'autre côté, quelques années plus tard, par le traité de Saragosse, eh bien, les deux puissances ont fait la même chose, en 1529, ils se sont partagés sans le connaître. Ils se sont partagés l'autre face de la Terre. Première mondialisation, une conquête du monde par des Espagnols et des Portugais, un héritage grec important, un partage du monde fondamental. Le monde, donc voyez, hein, je n'insiste pas, il y a eu des mondes bien avant celui qui nous préoccupe. Et ensuite, alors, à partir de cette première mondialisation espagnole et portugaise, eh bien, l'Occident, progressivement, a défini ce qui a été le monde du XXe siècle. Alors, c'est, à ce moment-là qu'on fixe la deuxième étape de la mondialisation. La deuxième étape de la mondialisation, elle se déroule en fait à la fin du XIXe siècle seulement. À la fin du XIXe, avec deux aspects extrêmement importants pour moi. D'une part, la création des continents. Et d'autre part, la création des États. Alors la création des continents, vous pouvez peut-être penser, comme beaucoup peut-être d'humains sur la Terre, que les continents sont une donnée naturelle. Donnée de la nature. Qui a pu imaginer que les continents n'étaient pas une donnée de la nature? Quand on voit l'Afrique bien séparée des autres continents, on peut se dire, ben oui, c'est évident, l'Afrique a toujours existé comme ça, et donc il n'y a pas de problème, on ne va pas remettre en cause cette idée de continent africain. Ça devient beaucoup plus difficile quand même, remarquez-le, quand il s'agit de séparer l'Europe de l'Asie. Et là, évidemment, quand il s'agit de séparer l'Europe et l'Asie, on est en mal de trouver des limites. Vous les connaissez, les limites entre l'Europe et l'Asie? Qu'est-ce qui est classiquement utilisé pour séparer l'Europe et l'Asie? L'Oural, exactement. C'est la montagne, c'est l'Oural, qui est une montagne qui a l'intérêt d'être nord-sud, mais cette montagne, c'est une montagne qui dépasse à peine les 2000 mètres d'altitude. Alors en termes de limites ou de barrières, excusez du peu, c'est pas plus haut que le Jura. Le Jura n'a jamais été une barrière extraordinaire pour séparer des hommes. C'est la même chose pour l'Oural. Ce qui veut dire que, en fait, les continents tels qu'ils apparaissent à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, sont une création humaine. Le produit d'un choix humain. La nature n'a rien à voir avec les divisions des continents tels qu'ils apparaissent au XXe siècle. Ces continents portent des noms hérités des Grecs, Afrique, Asie et Europe. Ils ont des limites, l'Oural, qui sont tous le produit d'un choix humain, politique le plus souvent. L'Oural, c'est le produit d'un choix d'un tsar russe qui, au XVIIe siècle, a demandé à son cartographe de placer la Russie dans l'orbite des grandes puissances européennes. Et pour que la Russie fasse partie des grandes puissances européennes, eh bien, il fallait que son cartographe trouve une limite qui intègre la Russie dans l'Europe. C'est ce qu'a fait ce cartographe, et donc il a choisi l'Oural. Ça n'est rien d'autre qu'un choix humain et politique, vous le voyez. Et aujourd'hui, la meilleure preuve de cette absence de données, de nature dans le choix des continents, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des continents sont en cours d'évolution. Hein. Est-ce qu'on parle encore d'Afrique globalement aujourd'hui? Quel est le terme qu'on utilise le plus pour parler d'Afrique, plus qu'Afrique globalement? Quelle est la zone géographique africaine dont on parle le plus au lieu d'Afrique? Vous voyez ça? Eh bien, on utilise le terme d'Afrique subsaharienne. C'est beaucoup plus Afrique subsaharienne qu'on utilise comme terme que l'Afrique globalement. Donc ça veut dire, si vous voulez, ça veut dire que on est en train d'organiser un nouveau découpage du continent africain. Hein? Et donc l'Afrique en tant que continent n'a plus grand intérêt, en tout cas ne parle plus, n'est pas évocateur pour les hommes actuels. Par contre, Afrique subsaharienne, ça devient extrêmement évocateur. Autre exemple, l'Asie. Bon, rares sont les journalistes ou les hommes politiques qui parlent d'Asie au sens large. Par contre, Asie du Sud-Est, Asie orientale, Asie centrale, voilà des termes qui, englobent des territoires qui ne sont plus l'ensemble continental qu'on appelait Asie jadis. Et donc, il y a fort à parier que vous connaîtrez, au XXIe siècle, eh bien, de nouveaux découpages qu'on appellera continentaux. Hein? Qu'on appellera continentaux, et les continents actuels seront noyés dans d'autres ensembles qui auront réorganisé l'ensemble de la Terre et du monde tel qu'il est. Vous voyez donc, une première invention des Européens, ça a été ce monde des continents qu'ils ont nommé, qu'ils ont découpé, qu'ils se sont partagés. Le deuxième élément de la mondialisation à la fin du XIXe siècle, c'est un élément tout aussi important et fondamental, même, c'est le monde des États. En fait, à la fin du XIXe siècle, les Européens ont imposé et diffusé un modèle d'État qu'on appelle l'État-nation, qui rassemble un peuple, un territoire, un État, et qui est délimité par des frontières linéaires, la ligne frontière. Eh bien, les Européens, à la fin du XIXe siècle, ont organisé la diffusion, ont imposé parfois, en Afrique par exemple, ce modèle de l'État-nation. Partout, à la fin du XIXe siècle, tend à se diffuser ce modèle. Alors en Afrique en particulier, on va le voir, mais dans d'autres parties, je dirais dans toutes surtout les continents du monde, là où les Européens sont présents, ils vont imposer ce modèle, organiser son développement. Et c'est ce que vous connaissez, vous, du monde d'aujourd'hui. C'est ce que vous connaissez du monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un État pour vous? Qu'est-ce que c'est que le monde actuel? C'est un patchwork d'États, une mosaïque d'États, tous séparés par des frontières, lignes, que l'on voit sur les cartes. On voit des lignes frontières, on est persuadé que ces lignes frontières sont des données, je dirais, traditionnelles de la vie humaine. C'est une construction absolument fondamentale des Européens à la fin du XIXe siècle. Alors, cette construction, par exemple, a été extrêmement importante dans la pensée des Africains et dans la pensée en général de tous ceux qui avaient à construire des territoires. Ici, par exemple, vous voyez une carte de l'Afrique telle qu'elle était publiée par des cartographes allemands à la fin du XIXe, début du XXe siècle. Voilà une carte de l'Afrique qui est tout à fait novatrice dans sa vision de l'Afrique, puisque pour la première fois, l'Afrique est partagée. Vous savez que le partage de l'Afrique en histoire s'est déroulé dans un congrès fameux qui s'appelle... Vous savez pas, ça, vous souvenez plus en histoire quel congrès a organisé le partage de l'Afrique par les Européens? C'est le congrès de Berlin, par le congrès de Berlin, voilà. Le congrès de Berlin qui, à la fin du XIXe siècle, a engagé les Européens dans le partage de l'Afrique, les grandes puissances de l'époque, France et Angleterre surtout, mais d'autres aussi, Allemagne, Belgique et autres, se sont partagés cette Afrique. Et donc ce que l'on voit là, c'est le premier tracé de frontières, partageant les colonies européennes en Afrique et ce que deviendront les futurs États africains. Eh bien, pour la première fois en Afrique, on voit des lignes frontières remplacer des zones. En Afrique, il y avait des États avant. Il y a eu des États très puissants en Afrique, de grands empires africains. Mais ils ne fonctionnaient pas du tout sur le modèle de l'État-nation avec des lignes frontières. Pas du tout. Ils existaient dans la forme de, comment dire, d'auréoles concentriques de pouvoir de moins en moins forts. Il y avait un noyau de pouvoir central très puissant. Et plus on allait vers la périphérie de ce noyau géographique de pouvoir puissant, moins il y avait de population et moins de pouvoir. Donc les États n'étaient jamais en contact. Il y avait toujours des tampons, des territoires tampons entre les États africains. Mais ils étaient très puissants. Eh bien, les Européens, à la fin du XIXe siècle, disent aux Africains, mais voilà, nous, ce qu'on propose comme partage, on a négocié avec eux, certains chefs de tribu, les partages en question. La plupart du temps, on n'a pas négocié du tout, on leur a imposé ces lignes de partage, ces frontières. Donc, voyez l'importance de la carte de ce point de vue-là pour créer le monde. Autre exemple, j'ai choisi là une carte qui est presque une caricature, en allemand toujours, mais je vais vous traduire. Cette carte signifie que deviendrait le monde si on ne tenait pas en laisse toutes les colonies. Que deviendrait ce monde? Alors, là, vous voyez, peut-être pas très bien, je pense que l'écran éclaircit un petit peu la carte, mais sur cette vieille carte du monde du début du XXe siècle, on voit des personnages qui sont des Français, des Russes, des Américains, des Anglais. On voit des petits personnages qui tiennent en laisse des animaux. Alors, pour la France, évidemment, c'est le coq gaulois qui est représenté. Le Royaume-Uni, c'est le lion britannique, l'ours russe ou le bison américain. Et donc, on voit donc des petits personnages qui représentent les puissances coloniales tenir en laisse des animaux représentent leur présence dans les colonies, leur empire colonial. Et donc on voit bien à quel point, là encore, cette idée représentée sur cette carte, cette idée d'un monde qui est dominé par les Européens, qui tiennent en laisse l'ensemble des colonies, est une idée extrêmement présente dans la pensée des jeunes enfants, des adolescents et des citoyens du début du XXe siècle. Alors, ça m'amène à évoquer en quelques instants quelques effets de ce modèle européen de frontières. Quelques effets du modèle européen de frontières et de l'État-nation. Eh bien, en Afrique, les frontières ont créé les États. En Afrique, ce sont les frontières définies par des Européens qui ont organisé la création des États-nations. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé chez nous, hein. En France, le royaume de France puis la République française ont été créés à partir d'un centre politique qui était Paris. C'est le centre qui a créé les frontières. Eh bien, en Afrique, ça s'est passé exactement inversement. Les frontières ont organisé ce qui n'existait pas, un territoire qui est devenu un État. Alors, il y a des, en Afrique, de véritables interrogations sur le fait que puissent tenir des États qui ont été créés par des frontières d'origine étrangère. C'est quand même tout à fait incroyable. Alors, il y a sans doute eu en Afrique, ça serait l'objet d'interrogations, de recherches, sans doute intéressantes, passionnantes, savoir comment en Afrique les États tiennent-ils? Comment arrivent-ils? Alors, par exemple, en ce moment, vous voyez bien, la Côte d'Ivoire est dans une situation difficile, dramatique même, sans aucun doute, par les massacres qui vont s'y dérouler ou qui s'y déroulent déjà. Mais on voit bien que la Côte d'Ivoire ou d'autres États sont des entités qui sont peuplées de communautés différentes, d'ethnies différentes, de peuples différents. Et par conséquent, il y a quelque chose de très difficile à comprendre. Comment des populations aussi différentes, des ethnies aussi différentes, arrivent-elles à vivre ensemble dans un territoire qui s'appelle la Côte d'Ivoire? Alors qu'en fait, ils sont sénoufaux, ils sont malinqués, ils ont une identité ethnique qui n'a rien à voir avec ivoirien. Ivoirien, au départ, ça n'existe pas. Hein? Bon. Aujourd'hui, ces communautés sont sans doute en train de s'affronter à nouveau pour faire en sorte que l'une domine les autres. Mais il n'empêche, au départ, il n'y a pas d'esprit, d'identité ivoirienne. Eh bien, ce qui a pu contribuer à doter ces États africains d'une identité, c'est par exemple, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, que certains amateurs de football connaissent peut-être, suivent peut-être parmi vous, eh bien, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, justement, Coupe d'Afrique des Nations, chaque équipe de foot est dotée d'une image, d'une icône, d'un animal qui les représente. Alors nous, c'était le coq gaulois, je vous ai montré quelques images, quelques icônes des grandes puissances coloniales. Eh bien, vous savez bien, les amateurs de foot le savent, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme animal qui représente les équipes? Alors il y a par exemple, dites-moi si je me trompe, il doit y avoir les lions indomptables du Cameroun. Oui, ben, donc voilà, c'est très bien. Vous en connaissez d'autres?
Les éléphants de Côte d'Ivoire.
Les éléphants de Côte d'Ivoire, voilà. Donc, voyez, c'est intéressant de voir que une icône, une image a pu faire tenir et peut faire tenir, participer en tout cas, à faire tenir un territoire, un État et donc une collectivité qu'on appelle une société ivoirienne. Ça c'est tout à fait intéressant. Donc c'est un élément parmi d'autres. Mais voyez, on voit quand même parfois, lors de certains événements, apparaître ce genre d'éléments qui permettent de comprendre pourquoi les États tiennent à travers des frontières étrangères. Deuxième exemple, la balkanisation de l'Europe centrale et orientale. Eh bien, là encore, je pense que vous avez vu, au moins dans l'époque récente, se poursuivre une espèce de fragmentation des territoires et des États dans le monde, et en particulier en Europe centrale et orientale. Il y a, par exemple, je vais vous montrer, j'ai apporté ça, on la verra peut-être, voilà. Voilà une petite, un dessin qui me paraît très intéressant, paru dans le Washington Post, un grand journal américain. Et c'est la fragmentation de la Yougoslavie, vous voyez. Et un peu comme, vous voyez ce que sous-entendrait cette caricature, ce dessin qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que la fragmentation est interminable. Hein, on finit par avoir des confettis de territoires à partir du moment où chacun veut respecter l'idée de l'État-nation. Hein. Donc le modèle dans des pays qui sont tellement, qui représentent une multitude de civilisations, de cultures, une multitude de langues, le modèle de l'État-nation est tellement difficile à mettre en place qu'on finit par avoir une fragmentation de territoires multiples et de plus en plus petits, les deux derniers en date étant l'État de l'ex-Yougoslavie et qui a été récemment indépendant, qui a obtenu son indépendance récente, le tout dernier, c'est. Il y a une guerre terrible dans cette région il y a quelques années. C'est vrai que vous étiez très jeune à ce moment-là. C'est le Kosovo qui a été indépendant en 2008. Et un peu de temps avant, 2006, il y avait eu l'indépendance du Monténégro. Donc vous voyez, on est dans une configuration où la fragmentation, selon le modèle de l'État-nation, pardon, se multiplie. Alors, troisième exemple d'effet du modèle européen, le durcissement des frontières. Le durcissement des frontières au Proche-Orient. Eh bien, effectivement, au Proche-Orient comme ailleurs, les frontières n'étaient pas nettes. Il y avait même, je dirais, des territoires très vastes qui n'étaient pas délimités par des lignes spécifiques. Et puis surtout, rares étaient les États qui avaient déjà un nom tel que ceux que vous les connaissez aujourd'hui. En dehors de l'Iran et de la Turquie, qui étaient peuplés de Perses et de Turcs, qui se reconnaissaient comme Perses et Turcs, qui parlaient une langue spécifique, en dehors de ces deux États-là particulièrement, tous les autres n'avaient pas de limite, n'avaient pas de nom même. Donc, en fait, les Européens sont à l'origine de la création de toute pièce de ces États, de ces frontières. Alors, ça s'est accompagné, évidemment, d'enjeux extrêmement importants sur les ressources énergétiques, en particulier le pétrole, la recherche, l'exploitation d'hydrocarbures. Mais il n'y a pas que ça. Les Européens ont tenté, par leur puissance, la présence coloniale, d'imposer un modèle qui était le leur depuis longtemps. Et par exemple, c'est tout à fait intéressant de voir se maintenir un État aussi improbable que la Jordanie. La Jordanie n'a une existence qui est de l'ordre de un peu moins d'un siècle. C'est un très très jeune État, la Jordanie. Et donc le nom de Jordanie a été inventé. Les images qui peuvent faire tenir l'État jordanien ont été inventées de toutes pièces. En fait, le royaume de Jordanie, pur produit de la colonisation européenne, tient et est relativement stable depuis presque un siècle, parce que le roi de Jordanie a su trouver une image qui fédère la population. C'est l'image du Bédouin. Le Bédouin, c'est-à-dire cet homme, ce nomade, éleveur, qui vit sous la tente dans le désert, c'est l'image, c'est l'ancêtre des Jordaniens. Or, dans la population jordanienne, il n'y a pas plus de 15% des habitants qui aient vraiment une origine de Bédouin. Tous les autres n'ont jamais connu la vie dans le désert, n'ont jamais vécu sous une tente, ne savent pas ce que c'est qu'être nomade, mais tous se disent, oui, nous sommes descendants des Bédouins. Donc vous voyez, là encore, à quel point l'image de la Jordanie a pu être associée étroitement à une valeur, à une icône comme celle des Bédouins. Alors donc, les Européens ont défini le monde au XXe siècle. Vous les avez, les éléments du monde au XXe. Des États qui sont définis selon le modèle européen. Une temporalité du monde. Ben, la temporalité du monde, elle est définie par les Européens aussi. C'est d'ailleurs, en fait, il y a des États-nations, européens d'abord, l'Occident, et puis il y a tous les autres. Ceux qui ne sont pas encore construits sur le modèle de l'État-nation, ceux qui n'ont pas encore connu le développement des États européens et qui sont dans un autre temps. Et donc l'Europe, de ce point de vue-là, se distingue du reste en disant ben, nous sommes les plus anciens, les plus développés, et puis il y a ceux qui sont dans un autre temps et qui peut-être vont acquérir progressivement le statut de pays très développé, mais qui ne sont pas encore dans cette temporalité-là. Dénomination du monde. Je n'insiste pas, une grande partie des noms des continents, on vient de le voir, des États, on vient de le voir, des villes, des grandes villes du monde ont été données par des Européens. Quand vous avez, une ville qui s'appelle aux États-Unis la Nouvelle-Orléans, vous voyez que l'origine française est assez claire, et comme ça vous pouvez regarder une carte du monde, vous verrez énormément de villes aux États-Unis et ailleurs dont l'origine est européenne. Hein? Bon, donc la dénomination du monde, les continents ont été dénommés aussi par les Européens, y compris par exemple un de ceux dont je n'ai pas parlé, l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est une invention de Napoléon III. Napoléon III a, lors d'une aventure qu'il a tentée au Mexique, a décidé d'appeler Amérique du Sud Amérique latine, parce qu'il considérait que l'influence latine en Amérique était fondamentale. Donc voyez à quel point, même dans la dénomination des territoires du monde, les Européens ont été extrêmement importants. Dimensionnement du monde, c'est rapide. le dimensionnement du monde, toutes les mesures, une grande partie en tout cas des mesures qui servent aujourd'hui à faire fonctionner le monde, sont des choix européens. Et y compris par exemple le mètre, qui a été une invention de la Révolution française, 1792, c'est la première fois qu'on définit le mètre par rapport au méridien de Paris. Et tous les États qui ont choisi ensuite le mètre sont entrés dans le monde. Là encore, ceux qui avaient choisi le mètre et qui ont choisi le mètre vont entrer dans le monde européen, tous les autres sont à l'écart. Et enfin, organisation du monde, les transports et les institutions internationales. Là, évidemment, à la fin du 19e siècle, début du 20e, les transports ferroviaires se développent. Il y a des États qui acceptent le réseau ferré. Il y a des États qui refusent d'entrer dans des réseaux ferroviaires. Eh bien, ceux qui acceptent entrent dans le monde, tous les autres n'en sont pas. Par exemple, il y a une ligne très fameuse, enfin en tout cas pour des gens de ma génération, qui presque fait est pratiquement mythique, c'est la ligne entre Paris et Istanbul, qui n'a pas rêvé dans les années 60-70 parmi les Européens de prendre le train entre Paris et Istanbul en 3 jours de train, partir de l'Occident, arriver dans une grande capitale de l'Orient par un train magnifique et un parcours à travers les Alpes. Donc c'était un train mythique. Eh bien, je dirais que tous les pays du monde n'ont pas accepté d'être reliés à des grandes puissances comme la France à ce moment-là. Et donc la liaison ferroviaire est devenue un élément d'organisation, mais aussi de participation au monde, tel qu'il est défini par les Européens. Et les institutions internationales, eh bien, fin 19e siècle, toutes les grandes institutions internationales que vous connaissez aujourd'hui commencent à apparaître. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, on parlait des virus tout à l'heure, eh bien, l'Organisation mondiale de la santé se construit à la fin du 19e siècle quand des Européens pensent à définir des valeurs hygiénistes. Ils commencent à définir ce qu'est l'hygiène et donc créent une assemblée qui doit diffuser les normes d'hygiène dans tous les pays du monde. Les pays acceptent ou pas, ils intègrent à ce moment-là, en acceptant ces valeurs-là, eh bien ils acceptent d'intégrer ce qu'on appelle le monde. Donc vous voyez, le monde du XXe siècle, c'est le produit de tous ces facteurs, de toutes ces temporalités extrêmement complexes, et par conséquent, eh bien, c'est ce qui, aujourd'hui, nous fait parler du monde actuel. Aujourd'hui, il y a un monde avec un grand M, parce que pour la première fois, et grâce ou à cause de l'intervention européenne, de la pensée européenne, eh bien, il y a un monde qui est totalement bouclé. Tout le monde aujourd'hui, tous les pays du monde, sont entrés dans le système monde. Tous sont reliés par des moyens de communication. Tous participent des mêmes valeurs en termes de santé, etc., etc. Et ce monde actuel, il prend la valeur d'un monde avec un grand M parce que personne n'est à l'écart aujourd'hui de ce monde. J'ai vu il n'y a pas longtemps au sud de la Tunisie, dans un carrefour improbable en plein désert, un carrefour circulaire comme on en a partout, j'ai vu un globe terrestre en plein milieu du carrefour sur un piédestal. Un globe terrestre en plein sud de la Tunisie. Mais qui a eu l'idée de mettre un globe terrestre en plein sud de la Tunisie, en plein désert? Eh bien, c'est tout à fait significatif. Ça veut dire que pour tous les habitants rares, peu nombreux de cette zone très lointaine, oui, ils font partie du monde. Ils sont dans le monde et potentiellement, s'ils en ont les moyens, s'ils en ont envie, ils peuvent rejoindre n'importe quelle partie du monde. Eh bien ça, c'est le monde actuel avec un grand H. Alors deuxième point maintenant, le processus de territorialisation, la mondialisation et ce processus de territorialisation des États. En fait, et j'irai relativement vite, chaque étape de la mondialisation a construit des frontières, on vient de le voir. Au XXe siècle, eh bien, il y a une multiplication des frontières. Début du XXe, il y avait 40 États dans le monde. À peu près 40 États. Aujourd'hui, il y en a combien ?
Il y en a plus.
192 aujourd'hui. 192 États aujourd'hui dans le monde, 40 au début du siècle. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le XXe siècle a contribué à la multiplication des territoires étatiques. Et plus que jamais donc, alors qu'on parle de mondialisation, cette multiplication des États s'est réalisée, ce qui veut dire que chaque État a comme objectif fondamental d'asseoir son pouvoir sur un territoire. L'espace est toujours associé au pouvoir de l'État. Aucun État ne fonctionne dans une économie hors sol. Tous, au contraire, sont étroitement associés à cette économie. Alors, ça peut paraître paradoxal d'imaginer associer mondialisation et frontières. Ça va exactement à l'encontre de ce que on dit et ce que je rappelais dans l'introduction. Exactement à l'encontre. Puisque on imaginait que le monde allait se débarrasser des frontières. Rappelez-vous tout à l'heure, monde sans frontières, village global, société globale, un monde très lisse. C'est exactement l'inverse qui se passe au XXe siècle. Et ce qui se poursuit aujourd'hui va toujours à l'encontre de ce qui se passe, de ce qu'on entend dire de la mondialisation. Et par exemple, la Chine, grande puissance montante du monde actuel, eh bien la Chine, plus que jamais, est attachée à démarquer ses frontières. La Chine, puissance qui dispose d'une surface continentale de plus de 8 millions de kilomètres carrés, avec des dizaines de milliers de kilomètres de frontières, n'avait jamais démarqué ses frontières. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas démarquées sur le terrain. On ne savait pas quand on passait de la Chine à la Mongolie, de la Chine à la Russie, ou de la Chine aux puissances d'Asie centrale. On ne savait pas. Eh bien, la Chine, depuis quelques années, démarque ses frontières, c'est-à-dire qu'elle marque des bornes, et elle organise l'installation de bornes pour montrer aux populations là où s'arrête le territoire chinois et là où commencent les territoires voisins. Eh bien, ce démarquage des frontières chinoises est tout à fait typique de la volonté de territorialiser les États, c'est-à-dire de s'imposer sur des territoires forts pour pouvoir dominer le monde, y compris la Chine. Alors, l'enjeu derrière tout ça, c'est sans doute incontestablement le fait que, évidemment, on veut contrôler les ressources sur son territoire et on veut contrôler aussi les populations sur ce territoire. Les populations de la Chine ne sont pas toutes chinoises. Il y a des minorités autres que chinois en Chine. Et donc, évidemment, l'État chinois vise à contrôler ces populations en démarquant ses frontières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la frontière est pratiquement et toujours une obsession. La frontière est une obsession. Contrairement à ce qu'on pense de la globalisation, la frontière est plus que jamais une obsession. En Europe, par exemple, dans l'Union européenne, nous avons une chance extraordinaire. On peut aller en Belgique comme on veut. Je pense que tous avez fait l'expérience de passer la frontière belge. On la passe à 80 km/h parce que on voit bien qu'il y a une espèce de chicane qui nous oblige un petit peu à ralentir. Encore. C'est pas toujours le cas. Donc elle la passe extraordinairement bien. Aucun contrôle, aucune barrière. La guérite des douaniers s'est eue passée. Et donc, nous avons la chance d'avoir des frontières qui tendent à disparaître. Pour autant, est-ce qu'elles disparaissent partout dans l'UE? N'y a-t-il pas d'autres frontières extrêmement importantes? Eh bien, si les frontières tendent à disparaître à l'intérieur de l'UE, et encore est-ce à relativiser, à la périphérie de l'UE, les frontières sont plus que jamais importantes. On contrôle plus que jamais la frontière, par exemple, à l'est de la Pologne. On contrôle plus que jamais, on le voit bien, les frontières qui nous séparent de l'Afrique, et en particulier du Maghreb, lieu de transition, de passage d'un certain nombre de migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne, justement. Et donc, on voit bien, aujourd'hui, des lieux qui sont des lieux de contrôle au large de Lampedusa, dans l'Italie du Sud. Le détroit de Gibraltar, les Canaries, sont des frontières qui aujourd'hui sont des frontières périphériques de l'UE, dans lesquelles, le passage est extrêmement contrôlé. On rejette tous les migrants qui n'ont pas leur papier et qui tentent d'entrer dans cet espace mythique par sa richesse qu'est l'Union européenne. Donc, la frontière, dans la globalisation, n'est pas du tout partie des esprits. Au contraire, elle obsède les hommes politiques. Elle obsède ceux qui veulent protéger leurs richesses. Et à l'intérieur de l'UE, il y a de nouvelles frontières qui apparaissent. Alors peut-être les avez-vous rencontrées. Il y a par exemple la frontière entre la France et l'Angleterre, le Royaume-Uni. Hein? Quand on va à la gare de l'île Europe, par exemple, ou une gare du côté de Calais, évidemment, eh bien, plus que jamais on est contrôlé. Si on est en véhicule, on fouille le véhicule, on passe des appareils en dessous le véhicule pour voir si vous n'avez pas de produits cachés. Vous êtes parfois fouillé vous-même, on contrôle vos papiers d'identité. Le passage vers le Royaume-Uni, c'est pas une mince affaire, et même pour un ressortissant français. Hein? Donc là, un certain nombre de frontières s'imposent encore dans l'Europe. Dans l'Union Européenne, c'est la limite de la frontière de Schengen. Cette frontière n'a pas disparu. À d'autres échelles encore, il y a bien d'autres frontières qui se maintiennent dans l'Union Européenne. Par exemple, il y a des frontières aéroportuaires. Dans chaque grand aéroport, ou dans chaque nœud de communication, aéroport, port ou gare, eh bien, vous êtes l'objet d'un contrôle extrêmement important. Il y a là des nœuds frontaliers avec tous les arguments de la frontière traditionnelle. Le douanier, le garde-frontière, la police des frontières, les contrôles, les portiques, etc., etc. Donc on est bien là, dans une frontière, peut-être plus discrète que les autres, celle qui entourait les États, mais sans doute aussi forte dans le contrôle organisé que celle qui existait autour des États jadis. Donc ne croyons pas que les frontières internes dans l'Union Européenne ont disparu, je parlerai même d'un autre type de frontières qui tend à se développer, sans doute malheureusement, ce sont les frontières entre des quartiers à l'intérieur de grandes villes. À l'intérieur des villes peuvent parfois se développer des frontières intra-urbaines. Il n'y a pas de ghetto encore au sens fort du terme américain en Europe, dans les grandes villes européennes, mais par contre il y a incontestablement des processus de ghettoisation, de territorialisation d'un certain nombre de quartiers qui tendent à faire que les limites de ces quartiers pourraient devenir des frontières. Quand on voit les rivalités entre bandes telles qu'on en voit dans l'actualité récente. Donc, la frontière est aujourd'hui une obsession et en même temps une nécessité. Une nécessité parce que, en fait, on ne peut pas se passer de frontières. Vous avez sans doute rêvé, on peut toujours rêver d'un monde utopique sans frontières, dans lequel on pourrait circuler sans papier, dans lequel il n'y aurait pas besoin de visa, pas besoin de carte d'identité, on pourrait comme ça transiter d'un État à un autre. Mais ça, c'est une utopie dans la mesure où, je dirais que l'individu, comme la collectivité, l'individu d'abord, a besoin d'établir des limites autour de lui. Tout individu, quand il agit, crée des limites. Absolument. Un exemple, je ne sais pas si vous prenez souvent les transports en commun, sans doute que oui. Moi, je vois dans le métro lillois comment nous réagissons quand il y a beaucoup de monde dans le métro. Eh bien, chacun tend à se reconstruire sa propre limite. On n'aime pas être collé aux autres qu'on ne connaît pas dans le métro. On n'aime pas être collé dans un bus quand il est bondé. On essaye toujours de se séparer. Alors on se met dans des coins tant que c'est possible. Et puis à un moment donné, on est collé et là vraiment, on est très mal. Eh bien ça veut dire que chacun a besoin d'un espace vital qui est entouré d'une limite, voire d'une frontière. Si quelqu'un vient transgresser cette limite, on se sent mal, on est mal à l'aise, on est stressé. Donc la nécessité de la frontière s'impose individuellement. La nécessité de la frontière s'impose aussi collectivement. Évidemment, tout pouvoir en place a besoin de frontières pour mieux contrôler, quadriller le territoire en question. Donc, un monde sans frontières, malheureusement, c'est un monde qui ne peut pas exister. Il faut absolument, pour se séparer des autres, voir s'établir ses frontières. Alors, je vous le dirai dans quelques instants, dans quelle perspective pouvoir se séparer et pouvoir faire exister ces frontières. Et c'est mon dernier point. L'approche culturelle. Mondialisation et représentation. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation? Je prends représentation au sens large du terme. C'est-à-dire ce sont des images que nous avons en tête, une pensée, d'espaces que nous ne connaissons pas, mais auxquels nous pouvons penser, au sens propre du terme, une représentation, c'est penser à quelqu'un qu'on ne voit pas mais qui est très loin. Ça, c'est le premier sens. Eh bien, on peut de la même façon penser au monde. Vous avez tous et toutes des images dans la tête du monde que vous ne connaissez pas. Vous pouvez penser, je sais pas, à la Corée du Nord dont on nous parle souvent, mais sans y être jamais allé. Vous pouvez penser à l'Afrique du Sud sans y être jamais allé, etc., etc. Mais ça n'empêche pas que vous ayez des pensées, des images mentales de ces pays-là, de ces espaces-là, de ces paysages-là. Et donc, les représentations, c'est à la fois, ce sont à la fois ces images, cette pensée, ce sont les pratiques aussi, tout ce que vous pratiquez au quotidien et qui vous donne une expérience, bien sûr, et ce sont aussi toutes les traditions que vous transmettent vos parents, vos enseignants, toutes les connaissances que vous pouvez acquérir par chaque jour. Et donc, les représentations, aujourd'hui dans le monde, représentent une dimension sensible, incontournable. Il y a une dimension incontournable dans les représentations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, je pars de l'hypothèse, que pour comprendre le monde aujourd'hui, l'économie est intéressante, la société aussi, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure compte, mais il y a aussi une dimension de l'ordre du sensible, de la représentation individuelle et collective qui compte pour agir. Aujourd'hui, vous agissez et vous agirez en fonction, avant tout peut-être, de vos représentations du monde, de votre représentation de l'ailleurs. L'ailleurs qui peut être pas très loin, hein, qui peut être à quelques kilomètres. Mais c'est à partir de ces représentations-là que vous vous êtes construites, dont vous vous dotez, qui sont renouvelées tous les jours, que vous pouvez parfaitement vous doter d'une représentation du monde et qui sera extrêmement importante dans votre action. Et dans ces représentations, nous, géographes, on a un type de représentation qui compte beaucoup, ce sont les cartes. Et je vous ai apporté, là j'ai deux exemples rapides, on pourrait en parler longuement, on n'aura pas le temps, mais je vous ai apporté deux représentations qui sont des représentations d'artistes. Parce que les artistes sont à même de nous apporter beaucoup par leur sensibilité au monde. Alors ici, c'est une carte, si vous faisiez cette carte-là, évidemment, si vous faisiez cette carte-là en géographie, on vous dirait, mais vous êtes complètement fou. C'est une carte construite par des artistes qu'on appelait les surréalistes, dans les années 20, en France, un mouvement artistique, littéraire, les surréalistes. Et ils avaient établi une carte du monde qui était la leur, leur propre vision du monde, teintée d'idéologie, d'art, etc. Par exemple, il y a des curiosités sur cette carte. L'équateur qui ondule. On n'a jamais vu un équateur ondulant comme ça, c'est absolument impossible. Eux l'avaient fait onduler parce qu'ils voulaient intégrer dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud des territoires. Sur cette carte aussi, il y a des États qui disparaissent. Par exemple, on ne voit pas la France, on voit Paris. Ici, on voit Paris qui est à la pointe d'une gigantesque Allemagne, avec au sud l'Autriche-Hongrie, mais plus de France. Encore plus évident, regardez le continent nord-américain. Il y a un Labrador, mais il n'y a pas d'États-Unis. Il n'y a pas d'États-Unis. Les surréalistes détestaient les États-Unis. Donc ils ont placé la frontière entre Mexique et Labrador et Alaska, point final, etc., etc. Sans compter qu'enfin, ils ont eu ce que font beaucoup d'artistes aujourd'hui représentant le monde. Eh bien, ils ont dessiné des îles avec des formes d'animaux. Par exemple, l'île de Pâques, c'est un ours. Hein? Vous avez des animaux comme, pour la Nouvelle-Guinée, ça ressemble beaucoup plus à un diplodocus qu'à la Nouvelle-Guinée en réalité. Autre exemple. Une carte du monde avec fondée sur les drapeaux de chaque État, dans les limites des frontières de chaque État. Regardez l'Afrique. C'est un extrait d'une carte qui a en fait été réalisée par un artiste italien qui s'appelle Alighiero e Boetti. Et Alighiero e Boetti, qui faisait ses cartographies, qui faisait ses cartes dans les années 70-80, dressait au fur et à mesure une cartographie évolutive du monde à partir des changements de drapeaux et d'états. Et il faisait, ça n'est pas une peinture, hein, en fait c'est une tapisserie, il a fait réaliser cette carte par des Afghanes qui étaient des spécialistes du tapis, évidemment. Et voilà ce que donne un extrait d'une carte d'Alighiero e Boetti dans les années 70. Et je trouve que l'Afrique est tout à fait extraordinaire. Ce qu'il nous dit de l'Afrique à travers cette carte, c'est ce qu'on verra jamais dans l'économie, dans la société ou quoi que ce soit. C'est une représentation extrêmement intéressante d'une autre Afrique. C'est-à-dire une Afrique où les couleurs transcendent les frontières. On ne les voit plus toujours, les frontières. On voit, il y a beaucoup de vert, beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, un peu de noir, donc il y a une coloration extraordinaire, mais les verts passent les frontières. Entre Centrafrique et Congo, on ne voit plus les limites. Donc on voit s'établir, au-delà des frontières, à travers les couleurs des drapeaux, on voit s'établir des passages, des passerelles. Et donc Alighiero et Boëti, de ce point de vue-là, est extrêmement important dans la vision qu'il nous donne du monde. Une autre vision, donc, du monde, du domaine du sensible, qui est une invitation à rencontrer l'autre. Et c'est par cela que je terminerai. En fait, plutôt que mondialisation, le terme que je souhaiterais que vous reteniez, c'est le terme de mondialité. Et ce terme de mondialité, il a été inventé par un grand écrivain antillais qui vient de mourir, qui s'appelait Édouard Glissant, et qui, en 2006, dans un ouvrage qui s'appelle « Une nouvelle région du monde », a inventé le terme de mondialité. Que veut dire le terme de mondialité? Il veut dire organiser une relation du monde en faisant valoir les différences des habitants du monde et en reconnaissant ces différences pour mieux vivre ensemble. Et c'est complètement l'opposé de la mondialisation, de la globalisation. Complètement l'opposé. Donc la relation entre les hommes, la relation entre les différences pour mieux se reconnaître, se rencontrer. C'est ça la mondialité. Et par conséquent, en suivant cette idée de mondialité vue par Édouard Glissant, eh bien aujourd'hui, face à la mondialité,